Aujourd'hui, je me trouve à Presles, dans le Briançonnais. Presles est un des villages de la commune de Saint-Martin-de-Carrières, dans la vallée de la Durance. Situé à une altitude de 1160 mètres, la population totale s'élève à 1118 habitants selon les derniers chiffres du recensement publié par l'INSEE. Le village de Presles est traversé par la Nationale 94 qui rallie Briançon et l'Italie via le col du Mont-Genèvre au nord et Gap, puis les ports de la Provence au sud. Ensemble, nous allons rencontrer une jeune femme, Elsa Thomas, qui s'est installée en agriculture biologique sur les hauteurs proches du village. Nous allons découvrir son parcours, appréhender ce qu'est une installation agricole dans la région, et ensemble, nous apprendrons à mieux connaître ses productions ainsi que sa façon de travailler. Elle nous expliquera quels sont ses souhaits et ses attentes pour l'avenir avec ce projet d'agriculture. Donc je vais aller à sa rencontre. Bonjour. Je peux entrer ? Non, parce qu'il y a écrit « Attention aux chiens ». Eh bien, bonjour Elsa, Jérôme, bonjour. Enchanté.
Salut Jérôme.
Okay. C'est bon, j'entre ?
Allez, ouais, bien sûr.
Ok. Hop, et voilà. Alors, donc Elsa, là on est sur ton terrain, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ton installation, je crois que tu n'étais pas agricultrice, enfin tu es agricultrice depuis peu.
C'est ça, hein, depuis voilà. Le 15 mars 2015. Et avant, j'étais dans l'insertion. Après, ça fait 3 ans que je prépare le projet en amont pour cette réorientation professionnelle. Et en fait, j'étais de famille agricole quand j'étais petite, en Normandie. J'ai passé toutes mes enfances à la ferme. Et c'est vrai que pour moi, c'était un idéal. J'avais voulu partir vers l'ONF, en fait. J'avais très envie de bosser avec l'ONF quand j'étais gamine. Et puis on m'a dit, non, fais des études, c'est pas pour toi l'agriculture, c'est pas pour des gonzesses d'abord. Et puis, si tu veux avoir des enfants et avoir une vie normale avec des horaires bureaux, etc., c'est pas l'agriculture qu'il faut faire. Moi, à cette époque-là, j'étais pas aussi loin dans mes pensées. Du coup, j'ai fait des études et puis j'ai passé une maîtrise de commerce international, donc LEA. J'ai fait anglais, italien, norvégien. Et puis après, wow. J'ai bossé en commerce et puis beaucoup dans le social aussi, pendant 15 ans dans le social. Du coup, en animation, en éducation, donc j'ai fait la protection judiciaire de la jeunesse, j'ai fait de la formation, j'ai fait enseignement des langues, du coup du français en Italie et de l'italien en France et de l'anglais aussi d'ailleurs, d'accord. En CFA à Marseille. Et puis après, je suis passée à l'insertion. Je devais passer en fait 2 concours, la protection judiciaire de la jeunesse quand j'étais à Marseille et en même temps le concours de Pôle emploi. J'avais déjà une petite fille avec qui j'étais seule. Et du coup, j'ai eu le concours de Pôle emploi avant. Enfin, c'était la NPE à l'époque, c'était même pas Pôle emploi.
Oui.
Et du coup, j'ai fait le choix de m'arrêter là parce qu'il y avait une grosse formation qui était à Noisy-le-Roi, je crois, pour la PJJ. Là, ça devenait vraiment beaucoup plus compliqué avec un enfant. Il y avait un déménagement, des gardes de nuit, etc. Je ne voyais pas bien comment m'organiser pour faire tout ça. Et du coup, j'ai pris le boulot en insertion. Finalement, c'était la juste continuité de ce que je faisais déjà, puisque je faisais de l'alphabétisation à ce moment-là pour une association à Marseille pour des primo-arrivants. Et je bossais du coup en collaboration avec Pôle emploi, enfin avec la NPE à ce moment-là. Et les gens, quand je suis passée en insertion par l'activité économique, c'était des gens qui étaient très marginaux, avec des grosses difficultés, très éloignés de l'emploi quand même. Des gens qui sont en sortie de prison, des gens qui sont alcooliques, narcoleptiques, qui sont RSA depuis 10 ans, qui sont un peu déstructurés. Mais c'est vrai que tout ce qu'on a proposé ici sur le territoire, c'est du ménage en insertion. Et je pense que ça ne structure personne de faire du ménage. Ça peut être un job alimentaire, ça peut être un job même de long terme. Mais je pense que voilà, pour se restructurer après des heures, quand on a déjà une vie un peu brisée, l'agriculture semblait vraiment, vraiment fédérer beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de rapport à la terre. Voilà, on est avec du concret immédiat, on a le résultat de son travail. On sait tout de suite si on s'est planté ou pas. Ouais, quand on a fait des bêtises.
Et puis on est au contact de la nature, exactement. Donc beaucoup plus proche de soi en fait.
C'est ça, exactement. Finalement par rapport à des valeurs très humaines, hein, finalement on se retrouve petit homme face à son environnement tout simplement. Et on sort du virtuel complètement, on sort des objectifs, des impératifs que peuvent donner certains métiers justement dans le marketing, dans le commerce, etc. qui sont un peu décollés de l'humain finalement. Hein. Voilà, c'est des objectifs qui sont plus financiers qu'autre chose. Et les gens donc me disaient qu'ils auraient aimé bosser en agriculture comme pour les jardins du Buèche par exemple qui sont à la Ragne, qui sont super d'ailleurs, que j'ai visité en stage avec la DFPA quand j'étais en cours de BPREA. Et du coup, voilà, j'avais très envie de monter un type de jardin de cocagne comme ça, ici sur le Briançonnais. Et en fait, les financements ont été fermés complètement au niveau du conseil général, etc. Ils estiment qu'on a assez de chantiers d'insertion ici. On a le CPIE, on a les fils d'Ariane. Ils estiment que pour le territoire, ça suffit. C'est vrai qu'on est un petit territoire quand même. On n'a pas énormément d'habitants. Et voilà, donc du coup, ça s'est un peu arrêté là. Je ne baisse pas les bras cependant de continuer dans ce domaine-là, par le biais de jardins ouvriers, par le biais de partenariats avec la MJC, avec des écoles, avec le CPIE aussi. Il y a une nana qui est super, qui s'appelle Karine Hag, qui s'occupait justement de jardins ouvriers comme ça dans notre département avant. Et elle était bien bottée par l'idée. Et donc voilà, après... je pense que ça prendra du temps, mais on ira quand même sur ce chemin-là, je pense.
D'accord, donc un vaste projet, mais très honorable, et enfin moi ça me plaît beaucoup en tout cas. Et malgré ce qu'en pensent les politiques, je pense que si une structure se monte, elle peut faire venir des personnes d'ailleurs, même si...
Complètement. Après, c'est vrai que les politiques, parfois, en tout cas ici au niveau local, c'est pas toujours simple. Quand j'ai parlé de cette possibilité à ma mairie, ils ont bondi en me disant « Ouais, vous allez apporter des cas sociaux sur le territoire. » Donc j'ai un peu halluciné. Je leur ai dit « Mais des cas sociaux, mais comment vous parlez déjà ?» C'est juste des gens qui ont été déstructurés, qui ont eu des vies brisées et qui cherchent à se restructurer. On est là pour justement l'insertion derrière. Hein. Ils ont purgé leur peine, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Maintenant, c'est à nous de les aider de reprendre pas dans l'humanité, quoi. On peut pas toujours refouler les gens qui sont en difficulté, quoi. Et surtout, on a déjà le CPIE ici avec la ressourcerie, et ça n'a pas amené des cas sociaux, je veux dire, au contraire, c'est de l'insertion. Ça ne fait pas de délinquance, ça ne crée pas de problème, au contraire, je pense que ça soigne plutôt.
Oui, tout à fait. Enfin bon, c'est la peur de l'inconnu qui fait réagir comme ça, bien souvent.
Je pense que ça changera, c'est pareil. C'est des idées qui vont évoluer, et puis c'est tout à fait dans l'air. Je pense que ce sera des idées qui seront reprises, des jardins ouvriers un peu partout, refaire vivre aussi les campagnes, ne pas laisser ces terres en friche, voilà quoi.
Tout à fait. On va revenir à la terre, là on est dans ton jardin, donc ton jardin, bon je vais essayer de le situer un peu visuellement, même si c'est que auditif, ça fait des bosses, ça fait un cercle, il y a de la paille, c'est... on dirait il y a une petite mare, il y a des arbres, c'est clôturé pour éviter j'imagine toute intrusion non désirée.
Surtout qui pâturent autour. Du coup qu'elles viennent pas tout manger. Alors celle-là c'est la parcelle en permaculture du coup. Donc j'ai fait des buttes avec des formes un peu arrondies effectivement pour briser les lignes droites, etc. Sortir un peu du conventionnel et l'afficher immédiatement. Je te cache pas que sur le coup c'était compliqué parce que tous les gens du pays passaient et me disaient mais qu'est-ce que vous faites ? Mais vous faites n'importe quoi, mais c'est pas comme ça du tout, mais ça va tout crever, mais ça va brûler, mais faut pas les serrer autant, mais ils vont s'étouffer, enfin bon bref.
Et du coup, quand on sort des sentiers battus, ça suscite parfois des interrogations.
C'est ça, mais parce que je pense que les gens n'ont pas imaginé faire autrement, mais c'est vrai que là c'est ma période d'essai entre guillemets, les gens regardent, observent, se disent au début mais c'est n'importe quoi ce qu'elle fait, puis au fur et à mesure ils voient que ça a quand même des super rendements. Et du coup tout l'été il y avait les mêmes petits vieux qui repassaient, qui me disaient mais quand même ça vient bien hein.
Ça c'est chouette.
Je me disais que peut-être j'allais retrouver des buttes un peu dans tous les jardins, et c'est vrai que ça a un rendement exceptionnel. Sur le coup c'était vraiment une expérimentation, j'étais pas du tout sûre de ce que je devais faire, et encore c'est pas peaufiné du tout, c'est ma première année, donc pour l'instant il y a encore énormément de travail à faire, même sur les buttes, parce qu'elles s'affaissent régulièrement. Donc là, je suis en train de recreuser pour remettre de la terre sur les buttes qui sont complètement affaissées. Il y en a qui étaient vraiment à plat, quoi. Quasiment, un tout petit arrondi sur la terre, alors qu'il y avait peut-être un mètre de hauteur à la base. Et du coup, en pompant les nutriments, en continuant à se dégrader, tous les matériaux se sont affaissés. Du coup, tout ce qui est bois, tonte d'herbe, feuilles mortes, etc., ça a fini par se dégrader et refaire de la terre qui s'est tassée, du coup.
Oui, ça réduit en volume. Alors là, la parcelle, elle est pas bien grande, hein, elle est pas très grande, mais
600 mètres carrés, c'est
donc 600 mètres carrés, mais j'imagine que tu n'as pas que ça en surface pour ton activité qui a démarré, je crois, au printemps dernier.
C'est ça, au printemps dernier. Du coup, j'ai 1,6 hectare actuellement. J'ai pas 1,6 hectare encore qui sont cultivés. Pour l'instant, j'ai vraiment 3 parcelles, on va dire, qui sont cultivées. Il y a celle avec la serre, il y a celle des fruits rouges, il y a celle de la permaculture qui a eu des super rendements. Pour cette année, ça m'a suffi à faire quand même 5 000 euros de chiffre, ce qui n'est pas énorme pour une première année.
Non,
mais
c'est
clair.
Petit.
Mais toute seule,
mais
et
sans
câbles, sans 4x4, les champs n'ont pas d'accès, ils sont enclavés au milieu d'autres champs, donc il faut y aller à pied. Du coup, c'est à pied que je remontais mes cagettes de courgettes quand même. Donc, plus le temps de travail de 2 marchés par semaine, qui occasionne du coup 4 jours en tout de travail pour la préparation du marché la veille, etc.
Et du coup, tu vends essentiellement? Essentiellement sur les marchés.
C'est ça, en vente directe. Voilà, le but, c'est de procéder vraiment en local et en vente directe. Du coup, je vends 2 fois par semaine au marché, le mercredi et le dimanche à Briançon. Je ne vais pas plus loin, je n'ai pas assez de rendement pour ça. J'ai vendu à Biomonde, à Lépine Vinette et à Leclerc aussi, beaucoup, beaucoup de salades. À une colo aussi qui s'appelle Aventure 05. Du coup, j'étais assez contente d'apporter aux cuisines pour les petits qui étaient en colonie vacances ici des produits locaux. C'est vachement bien. D'ailleurs, je remercie encore Aventure 05 d'avoir joué le jeu aussi du local. Et puis voilà, du coup, il y a aussi l'autocueillette sur les champs. Du coup, les gens viennent pour cueillir les fruits rouges. Ça marche super bien. Ouais. Tout l'été, il y a eu plein de familles. Deux gens qui venaient d'ailleurs, qui étaient souvent des touristes, et qui se sont régalés du coup à manger en même temps, qui récoltaient leurs petites fraises, leurs groseilles, leurs framboises, etc. Et du coup, on ajoute le souvenir du goût au souvenir de la cueillette, et je trouve ça vachement important.
Oui, c'est sympa, mais en même temps, comme voilà, je voulais te en parler, mais comment on fait pour quantifier la part consommée? Tu l'offres?
Je l'offre. Ah, mais complètement. Ça fait partie du jeu. Hein. Moi, ça m'enlève un peu de main-d'œuvre, du coup. Et ça me fait gagner du temps de travail, mine de rien. Même si je suis là quand même, je les encadre, je ne peux pas les laisser non plus à travers champs parce que souvent, il y a des petits trucs qui sont plantés aussi à côté, qu'ils ne voient pas forcément.
Il faut quand même les diriger.
Voilà, c'est ça. Et là, c'est pareil, il va falloir que je travaille sur des marquages un peu plus probants avec des cordes rouges, des trucs comme ça pour les endroits où tu ne peux pas passer, par exemple. Et voilà, faire des petits chemins qui soient un peu plus identifiés, on va dire. Mais c'est quelque chose qui a super bien fonctionné. Puis je fais aussi des paniers à la commande et non pas en AMAP. Du coup, c'est pas du tout imposé. Je donne mon listing aux gens et ils me disent je veux tant de ça, tant de ça, tant de ça pour demain à 4h. Et ils viennent récupérer leur panier, c'est tout prêt. Et puis voilà.
D'accord. Pour ça, il y a des jours où c'est on te téléphone, on dit ben voilà, je voudrais pour mercredi, par exemple.
C'est ça. C'est vraiment à la demande. Après, pour ce qui est de l'autocueillette, c'est tous les jours de 5h à 7h. Donc tous les après-midi, fin d'après-midi, une fois que j'ai terminé ma production, terminé mon marché, terminé ma compta, terminé l'administratif, etc., tout ce que tu as à faire. Et du coup, les gens peuvent venir sur place. Donc moi, je suis là. De toute façon, au pire, s'il n'y a personne, je continue à travailler. Et puis, s'il y a des gens, je les encadre, je les amène, je leur montre où est-ce qu'ils peuvent récolter leurs fruits et légumes.
D'accord. Et ça, sur quelle période, de quand à quand environ ?
J'ai commencé en mars, donc en mars j'ai fait la mise en place, il y avait encore pas mal de neige, de gel, etc. J'ai commencé vraiment les plants en avril-mai, donc là j'ai commencé à vendre des plants, et puis après c'était surtout juin, juillet, août, où ça a vraiment bien fonctionné pour ce qui est de l'autocueillette et des paniers, et après ça redescend un petit peu, après ça reste de la vente directe, mais plus au marché quand même.
Thank you. Et le choix de cette commercialisation sur les marchés, c'est quoi? C'est pour, bon, j'imagine, un vente directe pour mieux valoriser?
Ouais, ça en fait partie, mais il y a aussi le contact avec les gens dont je peux pas me passer. C'est un truc que j'adore, le marché.
Le social que cela crée.
C'est ça, exactement. Tu as un retour immédiat aussi de tes produits. Tu as une petite clientèle qui se forme. Les gens sont ravis. Là, ils étaient vraiment, mes clients étaient vraiment ravis. Ils trouvaient du goût vraiment aux légumes. Voilà, ils étaient très contents. Et du coup, ce retour-là, c'est vraiment important de l'avoir, je pense. Que si tu es tout le temps la tête dans la production, et que tu n'as pas de retour avec ta clientèle, je pense qu'au bout d'un moment, ça peut être un peu décevant, quoi.
Ça peut être un peu grisant, quoi.
Un peu grisant, ouais, carrément. Alors que là, c'est vraiment un vrai bonheur. Et puis, tu as une dynamique sur le marché avec les autres aussi, les autres forains, mine de rien, qui ont des stands, etc. C'est vraiment une ambiance particulière que j'aime beaucoup, avec que des gens particuliers aussi. Et du coup, tu as une dynamique, les gens se vannent, ça rigole. Enfin, il y a vraiment une vie, quoi. C'est vraiment voilà, ce vers quoi je tends, quoi.
Du coup, tu es arrivé nouvellement sur le marché. Est-ce que tu as été bien accueilli, justement, par rapport à ce qu'on peut dire, entre guillemets, la concurrence?
Non, super, super bien. En fait, les maraîchers, entre eux, ils n'ont pas tellement de concurrence, hein, j'ai l'impression. Je suis devenue rapidement amie avec tous les maraîchers du coin. Je pense que je fais pas trop de vent non plus, ma production, je pense que je menace personne. Et puis je pense que c'est pas non plus l'esprit du maraîcher. Autant j'ai pu avoir des difficultés peut-être avec les gens de l'élevage qui voyaient d'un mauvais œil mon installation, autant les autres maraîchers, ils sont tout à fait partants, ils voient pas ça comme de la concurrence, au contraire, je pense qu'il faut occuper le terrain, quoi. Il y a de la place pour tout le monde.
Ouais, je pense aussi, ouais. Hormis ça, l'agriculture, c'est quand même pas un métier facile. Tu as quand même une vie de famille. Il y a une organisation dans le travail. Ça demande énormément de travail, la culture des légumes. Comment tu arrives et comment tu organises la vie professionnelle, la vie de famille et de garder éventuellement un peu du temps aussi pour quelques loisirs. Enfin, je sais pas, vivre quoi.
Ouais. Alors, en période de production, sincèrement, l'an dernier, j'ai fait 2800 heures entre mars et octobre. J'ai fait plus de 11 heures par jour, parfois je dormais 4 heures par nuit, je faisais ma récolte de nuit quand il faisait trop chaud pour pas que ça fane et que ce soit encore tout joli le lendemain puisque j'ai pas de cave de stockage ni rien du tout. Donc voilà, là, c'était la complexité quand même, pour pas, si je le mettais directement dans le camion ça fondait complètement, les salades et les épinards etc, ils étaient fondus le lendemain quand je les sortais, donc c'était juste pas possible. Du coup je le faisais vraiment à la fraîche, à la frontale carrément, ce qui était super sympa, hein. Du coup t'avais les petits vers luisants qui ont réapparu sur mes terrains et tout, c'était juste magique parfois. Ah ouais, vraiment. Et puis, mais après, non, j'ai vu personne là, pendant ma période de production, mais j'étais juste épuisée, puis je finissais à pas d'heure, donc j'ai un peu loupé tous mes amis, toutes les bouffes et compagnie qu'on pouvait se faire avec les collègues, les amis, etc. La tête dedans, puis c'était ma première année, là, il fallait sortir le projet de terre, donc c'était le but. Les enfants, c'est pareil, hein, je les ai pas vus beaucoup, j'ai deux filles qui ont 8 ans et 15 ans. Heureusement, j'ai un mari qui tient le choc derrière, parce que c'est lui qui a géré absolument tout, là, qui a géré la maison, qui a géré les filles, etc. Moi, je rentrais, les filles étaient déjà couchées, hein, la plupart du temps. Et le matin, je partais, il était pas d'heure aussi, c'est pareil, quoi. Donc voilà, de temps en temps, je faisais une petite sieste, un truc comme ça, histoire de récupérer, parce que j'étais éclatée, mais non, c'était quand même assez compliqué à ce niveau-là. Voilà, donc c'est vrai que sur une saison, c'est chaud. Heureusement qu'il y a l'intersaison, on va dire.
Il y a l'intersaison pour se reposer. Donc la conclusion, c'est quand même, c'est pas facile de concilier vie de famille, vie privée et installation en agricole lorsqu'on travaille seul et surtout particulièrement en maraîchage.
Ah, mais complètement. Et je pense que même ici, quelque part, on a à la fois le problème, enfin le handicap de ce climat et de la saisonnalité qui est extrêmement courte, mine de rien, en période de production. Alors après, quand tu as une serre, c'est plus simple quand même, ça prolonge un petit peu. Mais c'est aussi un avantage finalement pour nous maraîchers du coin. C'est-à-dire que la plupart des maraîchers ici font quelque chose d'autre en hiver, ils vont bosser en tant que salariés. Et ça permet quelquefois de souffler un petit peu aussi, de reprendre un job où c'est bon, tu poses un peu ta tête aussi, parce que là, tu n'arrêtes jamais, mine de rien, tu as toujours ta compta en tête, tu as toujours t'as plein de choses, l'administratif, tous les dossiers que tu fais, la MSA, les demandes préalables de travaux pour les serres, les machins, etc., les luttes diverses et variées que tu fais pour l'irrigation, pour tout ce que tu veux, pour aller chercher ton matériel agricole, etc. chercher des caves, enfin voilà, tout ce qui est montage du projet sur lequel je suis encore, quoi. Puisque là, bon, étant donné que c'est la première année, c'est vrai que... Mais du coup, voilà, cette saisonnalité permet de poser aussi un petit peu. Et j'admire vraiment les maraîchers qui font ça toute l'année, parce que c'est quand même un travail de fou, quoi.
Donc là, ce qui veut dire, on est au mois de février, ça veut dire que là, tu travailles à l'extérieur actuellement.
Oui, c'est ça, je suis surveillante au lycée aussi, au lycée d'altitude, en 20h. Du coup, je travaille tous les après-midi. Et j'ai du coup les week-ends et les périodes scolaires pour les vacances scolaires, du coup. Ouais. Ça, c'est bien pratique. Alors après, à voir comment je vais arriver à goupiller les deux ensemble, je sais pas. Vu le nombre d'heures que j'ai fait l'an dernier, cette année, ça risque d'être compliqué de faire les deux quand même.
Voilà. À propos, on va parler peut-être un peu plus de la culture sur but. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et comment on met en place les buts et quel est techniquement, qu'est-ce que c'est ? Voilà, les gens ne connaissent pas tous et voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ?
Ouais, bien sûr. Alors les buts, c'est très simple à faire et à la fois ça prend énormément de temps et de matériaux. Donc tu mets du carton, parce que là la terre était surcompactée en fait par le surpâturage. Du coup on avait beaucoup de plantes pionnières type chardon, etc. Et qui notent un petit peu justement l'appauvrissement de la terre. Du coup là il y a un gros travail à faire avant qu'elle soit vraiment avec un bon rendement, quoi. Donc en travaillant sur des engrais verts, des rotations, des choses comme ça. Mais ça prend des années avant que la terre soit vraiment restructurée grâce à ça. Ou alors il faut y aller à coups d'engrais. Et moi, c'est pas le but. Là, je suis en bio et je ne traite pas du tout, du tout, du tout. Et donc, du coup, j'ai décidé d'essayer cette possibilité-là, les buts, qui me viennent de Pierre Rabhi, de la ferme de Bec et Loin, de tous les principes de permaculture, Zeb Holzer aussi en Autriche, qui est juste passionnant aussi. Et du coup, j'ai décidé d'essayer ça, et c'est vrai que ça a des rendements extraordinaires. Donc en fait, tu procèdes en faisant une couche de carton par terre. Le carton, donc t'enlèves évidemment tous les scotchs, il faut pas prendre des cartons qui sont imprimés parce que les encres, c'est pareil, c'est pas forcément très bio, quoi. Du coup, c'est les cartons les moins imprimés possibles, t'enlèves tout ce qui est scotch, etc. Tu les mets par terre, tu fais ton chemin, tu fais ton dessin des buts. Bon, déjà, tu l'as modélisé avant quand même, ton terrain. Tu modélises un petit peu comment tu veux le faire, créer tes buts, et les dimensions, etc. Donc là, elles font un peu plus d'un mètre de hauteur. Après, sur le carton, donc le carton, l'avantage, c'est qu'il va empêcher les mauvaises herbes, donc toutes les adventices, de sortir. Il va garder l'humidité et c'est un abri à lombriques. Donc eux, ils adorent ça, ils viennent le dégrader et du coup, ils viennent s'installer là où tu vas mettre ta terre, ce qui est vachement bien. Après, par-dessus, tu mets des vieux bois tout pourris, si possible, avec des mycorhizes dedans, donc qui vont continuer justement à ce processus de dégradation, qui vont l'accélérer, on va dire. Donc là, j'ai du vieux peuplier noir, par exemple, qui se dégrade très très bien, qui est très poreux, etc. Tu mets donc tous tes bouts de bois, tu mets ensuite des feuilles mortes, de l'herbe de thon, tous les déchets végétaux que tu as. Il faut arriver à faire quand même un bon ratio entre le carboné et l'azoté, quand même, mine de rien. L'herbe de tonte, etc., c'est plutôt azoté, donc tu vas avoir tout ce qui est carbone, ça va être le bois, etc., qui va se dégrader. Après, tu mets j'ai mis du fumier très très mûr, j'ai mis un mélange de cheval et de vache. Ça a l'air de donner pas mal. Et après, tu recreuses tes allées sur les côtés et tu remets ta terre par-dessus. D'accord. Donc tu mets des bonnes couches de chaque élément. Et ça te fait des jolis buts, mais au bout d'un moment, elles finissent par se dégrader, et du coup, ça fessait. Du coup, tu es obligé de les restructurer quand même un peu chaque année.
D'accord.
Voilà.
Et le fait de mélanger toutes ces matières, est-ce que ça, j'imagine, ces matières se transformant, étant recouvertes, il y a un peu d'aération, mais ça réchauffe ? Ça chauffe, fermente.
Ça fait une couche chaude, effectivement, qui permet aussi la germination un peu plus facilement, plus rapide. À la fois, c'est pour ça justement qu'il faut mettre quand même des bonnes couches et que le compost, ton fumier doit être bien mûr, parce que sinon ça brûle effectivement tes racines. Du coup, il faut faire attention à ce que tes buts soient pas trop jeunes, en fait.
Oui.
Mais sinon, ça fait une couche chaude en dessous, toute cette dégradation, et du coup, ça évite le gel. Et tu noteras que du coup, j'ai paillé aussi par-dessus pour éviter l'évaporation, ce qui permet, là, quand j'avais plus d'eau au canal, de vivre pendant la canicule sans une goutte d'eau sur les buts. Et effectivement, ça fonctionne plutôt bien.
Ouais. Oui, les buts créent une réserve,
une réserve hydrique. Et l'avantage pour les plantes, c'est qu'elles sont obligées d'aller chercher l'eau justement un peu profond, et du coup, de s'enraciner beaucoup mieux.
ce qui leur permet d'avoir un réseau racinaire plus important et de s'alimenter sans doute plus.
Exactement, elles s'alimentent plus, elles sont plus résistantes aussi aux maladies, aux ravageurs et compagnie. Et en matière de ravageurs, j'avais pas grand chose, j'avais des grosses limaces oranges qui m'énervaient un petit peu. Et du coup, au bout d'un moment, comme il y avait des mares ici, j'avais creusé deux mares, là, t'en as une petite là et t'en as une grande ici. Du coup, je me suis dit, des canards, ce serait bien des canards. Donc j'ai pris des colverts, trois colverts, deux femelles, une femelle et deux mâles. Et ben ils m'ont nettoyé la parcelle en matière de grosses limaces. Ils m'ont tout bouffé les limaces.
Et les légumes, non ?
Et les légumes, pas du tout. Mais à partir du moment où tu leur donnes assez de choses à manger, et ils sont pas parqués, les canards, ils sont sur toute la surface. Du coup, ils ont bien assez de nutriments pour pas aller attaquer tes plants. Ils ont les petites herbes par terre, ils ont tout un tas de petites fleurs aussi, des auxiliaires, etc. que j'ai mis.
D'accord.
Il y avait du blé, il y avait tout un tas de choses qui poussaient, qui étaient au pied des fruitiers. Le blé, c'était pour aider un petit peu justement à l'enracinement justement des fruitiers quand je les ai plantés. Mm-hmm. Tu mets du blé au pied, c'est pas mal, ça lui fournit un peu de nutriments pour se relancer. Et voilà, du coup, ils avaient bien assez de choses à manger pour pas m'attaquer les plants. Ils ont pas fait du tout de dégâts, quoi.
D'accord, donc...
Ils ont mangé toutes les larves de moustiques aussi qui étaient dans les mares, ce qui, à mon avis, a sauvé un peu les voisins.
Ça, c'est bien, ça fait plaisir.
C'est ça. Non, non, c'est bien, c'est vraiment cet équilibre-là que je recherche entre les oiseaux, les animaux, les plantes auxiliaires, voilà, qui va réazoter sa voisine, qui va garder de l'humidité pour la troisième, qui va grimper sur le tournesol, etc., etc. C'est vraiment rigolo, quoi.
Ok, donc on peut inviter les jardiniers à adopter un ou deux canards à mettre dans le jardin.
Vraiment, vraiment, c'est une super idée. Moi, là, il y a le renard qui est passé, qui m'a mangé mes canards.
C'est dommage. Ouais, c'est tant ça. Mieux pour lui, mais dommage pour toi.
Voilà, c'est ça, il a nourri ses petits. Voilà, c'est encore une fois le prélèvement de la nature qui est impératif. Bah, écoute, en même temps, pour l'hiver, là, il se serait un peu ennuyé sur les petites mares qui étaient toutes gelées. Donc, ils avaient un territoire qui était un peu trop restreint, les pauvres canards, pour l'hiver. Puis, ils n'avaient pas compris qu'ils étaient migrateurs. Donc, ils n'étaient pas partis, les pauvres. Ouais. Et je pense que voilà, ça aurait été dur de toute façon pour eux de passer l'hiver, même si je les nourrissais tous les jours. Quoi. Voilà. Ils ont vécu leur vie de canard, écoute.
Ben voilà, ça c'est fait. Au niveau de la production, tu peux nous faire une liste, pas forcément exhaustive, mais dire à peu près dans les grandes lignes les produits que l'on peut retrouver chez toi.
Bien sûr. Alors j'ai fait plein de tomates cerises, de tomates Paola aussi l'an dernier. C'est un collègue de La Roche-de-Rhum qui a hébergé mes tomates puisque les serres avaient été refusées ici. La déclaration préalable de travaux a été refusée par la mairie. Alors que je suis en zone agricole, au motif que en zone agricole, ici, le PLU dit toute occupation du sol est interdite à l'exception des pouvoirs publics. Alors à mon goût, c'est un peu la mort de la zone agricole si on le prend vraiment au pied de la lettre. Sauf qu'après, le code rural dit que non, en zone agricole, tout bâtiment nécessaire à l'activité agricole et à son prolongement est possible. Donc du coup, c'est un peu une lutte pour la serre, ce qui est un peu dommage à mon goût parce que je pense que pour une activité comme ça, c'est vraiment nécessaire. Donc du coup, cette année, j'espère qu'elle sera acceptée au final. Là, je suis en recours de façon à ce que je puisse mettre enfin mes tomates chez moi parce que du coup, j'étais un peu coincée l'an dernier. J'ai des choux, toutes variétés de choux, des choux rouges, des choux de Bruxelles, du chou kale qui a très très bien marché. Le chou kale au niveau des gens végétariens, etc., c'est un très très bon complément.
Oui, qui était en vogue.
Ouais, très en vogue. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il est résistant, il s'est super bien adapté au climat. Et j'étais un peu la seule à en faire dans le coin, donc ça a super bien marché.
Et juste un petit intermède, c'est un chou qui est très en vogue, que l'on prend pour un chou très récent, alors que c'est un très très vieux légume.
C'est ça, exactement, c'est un très vieux légume qui est revenu à la mode en fait. Et on avait oublié qu'il était aussi riche en nutriments, en vitamines, en minéraux, etc. Et du coup, les gens qui le consomment le font un peu à toutes les sauces. Ils le font au lyophilisateur, en jus, en tout ce qu'on connaît aussi en plat cuisiné. C'est rigolo, j'ai fait des épinards, j'ai fait des salades, j'ai fait du persil, j'ai fait des aromates, j'ai fait de la menthe, j'ai fait des fraises, des framboises, des groseilles, des cassis, des poireaux. Ouais, ça ça fait plaisir à manger quand tu récoltes des trucs ou quand tu es en train de planter, tu vas manger 2-3 fraises en même temps, c'est sympa. Et ou des framboises d'ailleurs. Qu'est-ce que j'avais ? J'avais des courgettes, j'ai fait 3 tonnes de courgettes quand même cette année. Je crois que c'est à peu près tout.
Tu as mis quelques fruitiers aussi.
Voilà, j'ai planté les fruitiers, mais je les ai plantés cette année. Donc le temps qu'ils rendent et qu'ils me fassent une jolie haie derrière. Là, ils sont positionnés derrière la mare, du coup, il profite de la réverbération. Et puis on verra ce que ça donnera. Il devrait être en fleurs au printemps, ça risque d'être joli, mais bon, pour l'instant, ils sont encore pitchounes, quoi.
Et donc, c'est quoi, pomme, poire ?
Pomme, poire, prune, cerise.
D'accord.
Donc, avec deux variétés à chaque fois. Il y a une pomme boscope, pomme granny, j'ai poire, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la Louise Bonne et puis je sais plus quoi. J'ai de la Burla Bigaro, j'ai de la prune, j'ai de la Reine Claude et puis de la... je sais plus quoi encore. Voilà, j'ai deux variétés de chaque. Ça risque d'être sympa après quand ça va produire. C'est
d'accord.
J'espère en planter plus. D'ailleurs, je plante des coins pourris là, sur les bordures de mes parcelles en espérant qu'ils se replantent tout seuls et que ça me fasse des belles haies de cognassiers à l'ancienne finalement, parce qu'il y en avait pas mal des cognassiers ici. C'est aussi ce qu'ils utilisaient comme porte-greffe pour les fruitiers. Donc c'est vrai que c'est assez vivace, quoi. C'est pas mal, j'ai planté des petits chênes aussi dans les coins nord de mes parcelles, histoire de me faire des jolis ombrages et des coupes vent, parce que là on a beaucoup de vent ici dans la plaine. Et puis voilà, l'idée c'est de replanter pas mal de haies, de refuges à oiseaux, de refaire fonctionner un petit peu toute cette vie alentour, quoi.
Oui, donc à l'avenir, tu as le projet de recréer un écosystème en fait à travers ton activité. Et est-ce que tu as pour l'avenir, donc d'ici quelques années, est-ce que l'envie d'autres projets qui éventuellement commenceraient à émerger dans ton esprit, est-ce que tu veux aller...
Il y a un projet de conserverie aussi collective qui est en train de se monter. Donc pour l'instant, c'est que dans les tuyaux. Mais c'est un super truc qui va permettre justement à tous les gens du coin, maraîchers, ceux qui font des fruitiers, des jus de fruits, etc. On va pouvoir faire de la conserve, du coup, des sauces, du ketchup, de la confiture, tout ce que tu veux. Ça va faire une activité de prolongement, ça peut être vraiment sympa en matière de collectif. Et puis après, toujours cette histoire de jardin de cocagne, de jardin ouvrier, le but étant que les jardins refleurissent en fait, au lieu d'avoir ces terres qui sont en friche et qui sont surpâturées, compactées et appauvries finalement avec une biodiversité qui est en panne. Et là, justement, les retours d'engrais verts que je vais faire, où je mélange un peu tout, la facélie, le lin, la moutarde, tout un tas de choses différentes, la veste, etc., des trèfles, et je mets tout ça dans le même champ, et tout ensemble, histoire que ça recrée et de la fleur, que ce soit mellifère pour les abeilles, que ça restructure ta terre, et au niveau des racines, et au niveau de l'azote, enfin voilà, quoi. Ça, après, une fois que tu le tonds, ça va repailler, du coup, recréer de l'humus, une fois que ça va se redégrader, etc., etc., ça va protéger la terre, qu'elle arrête de s'éroder et de... Voilà. Effectivement, plus elle est compactée, plus elle s'érode, plus elle permet le ravinement. Et...
Elsa, merci pour cet entretien. On va continuer hors micro, on va continuer le petit tour parce que bon, moi, je suis quand même curieux de découvrir un petit peu plus. Là, on est là, mais voilà. Si tu es d'accord, je te propose de nous retrouver éventuellement en cours de saison. Si tu arrives à trouver un créneau, bien que ce soit difficile, voilà, donc on essaiera. Ou alors après l'été, lorsque l'automne sera là, pour un peu voir un peu encore des choses en situation et puis voir un peu comment se sera passée ta saison. Et voilà, puis je te souhaite bien bonne réussite dans ton entreprise.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
Bon, et ben écoute, on fait un tour.
Allez, on fait un tour, c'est parti.
Encore merci à Elsa pour son accueil, nous lui souhaitons une grande réussite et nous la retrouverons prochainement pour connaître l'évolution de son projet. Cette émission a été réalisée le 27 février 2016. Vous avez pu écouter Impromptu, une musique de Frédéric Chopin, interprétée au piano par Claudio Haro. Bonne continuation à toutes et à tous sur nos ondes et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Ne quittez pas notre antenne car nos programmes continuent. Salut, salut !